Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hirong.
Bonsoir. Dans son dernier rapport sur la République démocratique du Congo, le groupe d'experts des Nations Unies relève que malgré la décision prise par les autorités congolaises de préciser l'origine des minerais qui sortent de la RDC, l'exploitation illicite principale source de financement des groupes armés se poursuit dans certaines zones de l'est du pays. Sur quels éléments se basent ces experts pour soutenir ces affirmations et que faire pour mettre fin à l'exploitation illégale et illicite des minerais en RDC ? Nos invités dans cette émission sont Frédéric Robas, coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies. Il a participé à la rédaction du rapport. Lems Kamwanya, coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promines. Bonsoir, monsieur Kamwanya.
Bonsoir.
Bonsoir, Fred Robas.
Bonsoir.
Willy Kalinga, analyste et directeur général du magazine Géopolis. C'est un magazine économique des activités extractives. Monsieur Kalinga, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. Jean-François Ngando de Mbandaka à l'Équateur. Suite à la pertinence des questions soulevées par les experts des Nations Unies, le gouvernement doit favoriser la politique d'encadrement et de financement des exploitations artisanales avec comme objectif de renverser la tendance qui fait que beaucoup d'exploitants miniers évoluent dans l'informel. Ouzélé Tchana de Mahagui en province orientale, je pense que la vraie solution pour lutter contre l'exploitation illicite des richesses au Congo passera par l'amélioration des conditions sociales de la population, c'est-à-dire la création d'emplois pour le petit peuple. L'agriculture reste une des solutions pour ce fléau. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'exploitation illicite des minerais se poursuit dans la partie est de la RDC. C'est le constat fait par le groupe des experts des Nations Unies, malgré certaines décisions prises par le gouvernement congolais et la loi dite Obama d'identifier tout minerai qui sortirait de la RDC. Kéline Kouté nous donne les grandes lignes du volet ressources naturelles de ce rapport.
Selon ce rapport, depuis avril 2011, la plupart des comptoirs situés dans l'est de la RDC n'ont eu aucun acheteur s'intéressant à des minerais non étiquetés, sauf trois. Il s'agit de TTT Mining, Yuaying, Tradinga et Danson International, qui ont vendu à des fonderies, raffineries et sociétés de négoces chinoises, n'exigeant pas d'étiquettes ni des preuves concernant le respect du devoir de diligence. Le groupe d'experts dit disposer d'éléments démontrant que ces comptoirs ont fait des achats qui ont contribué à financer des groupes armés et des réseaux criminels au sein des FRDC. À l'heure actuelle, peu de comptoirs situés dans l'est de la RDC et dans les pays voisins appliquent les lignes directrices sur les devoirs de diligence, c'est-à-dire prouver l'origine des minerais. Dans les zones qui ne sont pas touchées par les conflits, où les comptoirs et autres négociants exercent le devoir de diligence et ont mis en place des systèmes de traçabilité, l'administration du secteur minier s'est améliorée et la production et les exportations des minerais ont augmenté. Dans les zones où aucun système de traçabilité n'a été mise en place, surtout dans les Kivu et le Maniema, la production et les exportations ont baissé. Certes, cela a entraîné une diminution des fonds destinés au conflit, mais cela a aussi fragilisé l'administration du secteur minier. On constate malheureusement qu'une grande proportion du commerce est organisée par des criminels, certains membres de l'armée et des groupes armés. Les groupes d'experts ont établi que pendant la période de suspension des activités minières par le gouvernement, l'extraction de l'étain, du coltan et du wolfram s'était poursuivie dans plusieurs régions, souvent sous contrôle des FRDC ou des groupes armés.
Merci Kéline Kouté, Frédéric Robas. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies. Juste un mot avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur ce rapport de façon globale. Il faut signaler que c'est un vaste rapport et qui aborde en même temps plusieurs aspects.
C'est vrai, donc c'est difficile à résumer dans quelques mots. Mais l'essentiel, c'est il faut rappeler que le sujet principal et la tâche principale, c'est de voir quelles sont les sources de financement des groupes armés qui persistent à l'est du Congo. Alors, nous faisons un travail assez profond dans l'interview des ex-combattants, par exemple, même les combattants actuels. On travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises aussi et on effectue les visites au terrain afin d'observer nous-mêmes qu'est-ce qui se passe. Alors, en gros, on a conclu que les groupes armés continuent à exploiter les ressources naturelles, pas exclusivement les minerais. Il y a aussi le trafic de du bois, par exemple. Et que le trafic transfrontalier continue et que ce n'est pas le cas partout. Il y a aussi les exceptions, les endroits où on ne trouve pas les groupes armés. On ne veut pas donner l'impression qu'il n'y a pas d'espoir pour ce secteur. Mais c'est un secteur qui a connu pas mal de difficultés cette année, l'année passée. Avec la suspension, avec le changement du climat des affaires internationales aussi, qui a arrivé à une chute de commerce pour les Kivu et pour Maniema.
Alors, il faut signaler que dans cette émission, nous ne prenons que l'aspect ressources minières. Et les autres aspects seront abordés dans d'autres émissions. L'exploitation illicite des minerais se poursuit dans la partie est de la RDC, malgré plusieurs mesures, plusieurs décisions prises par le gouvernement congolais. Sur quels éléments vous basez pour soutenir ces affirmations?
Bon, je viens de citer un peu nos méthodes de travail. Il faut dire aussi que il n'y a pas des constats dans notre rapport qui ne sont pas triangulés, c'est-à-dire basés sur trois sources indépendantes et vérifiables, vérifiées par le groupe. On se base aussi dans l'information officielle qui vient aussi des ministères des mines, division des mines par exemple, mais aussi les services de sécurité. Et finalement, on a la capacité de mener les enquêtes internationales dans la sous-région, mais aussi plus loin, en adressant les requêtes d'information au gouvernement. Et ça aussi nous aide à vérifier les faits.
Alors, par cette affirmation, êtes-vous là en train de dresser un bilan négatif de mesures que le gouvernement congolais a prises, notamment la suspension à un moment de l'exploitation minière à l'est et puis qui a repris quelques temps après?
Oui, c'est pas pour nous à juger les décisions des autorités du pays. C'est simplement, c'est vrai qu'il y a les difficultés pour le secteur qui suit cette décision. Mais la décision a été prise et suite à ça, notre devoir, c'était de voir quel a été l'impact et est-ce que il y avait aussi le commerce illicite ou le trafic des minerais qui a continué. Nous affirmons que oui, malheureusement, il y a l'implication des membres criminels au sein de FARDC. Et nous pouvons citer les exemplaires plus tard si vous voulez.
Alors, quelles sont les causes pour lesquelles ces mesures se sont avérées inefficaces et qui font que l'exploitation illicite des minerais a continué ou continue encore?
Bon, d'abord, il y a une différence entre les minerais, l'étain, le coltan, et par exemple l'or, qui est plus facile à trafiquer, étant donné sa taille petite. Mais il y a aussi la largesse de la frontière, une taille énorme, les lacs, beaucoup des opportunités pour le trafic transfrontalier. Nous avons identifié certains sites, y compris un site contrôlé par le FDLR à Rutshuru, sur la frontière de Ouganda. Mais aussi un site dans la ville de Goma même, contrôlé par le général Bosco Ntaganda.
Alors, on se rend compte en parcourant cet aspect du rapport, aspect ressources naturelles, que finalement la démilitarisation des zones minières reste un véritable défi pour la RDC.
C'est vrai, c'est un problème épineux, c'est clair. Là où on a la présence des groupes armés, c'est difficile à simplement dire que l'armée doit pas être présente. Il y a une justification pour la présence de l'armée là où il y a les groupes armés. Mais il y a aussi les polices des mines. Et en principe, le processus de démilitarisation des mines a été poursuivi avec un succès mixte. Mais l'idée, c'est que les soldats des FARDC devraient contrôler, par exemple, le périmètre pendant que les polices des mines contrôlent les sites minières eux-mêmes et faciliter la tâche des autorités d'accéder à ces mines. Mais une fois qu'on a une absence, un vacuum de sécurité, c'est vrai que souvent on a les incursions des groupes armés et la zone étant vaste, c'est difficile à couvrir tout.
Lems Kamwanya, vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promines. Comment vous avez reçu ce rapport des experts des Nations Unies?
Oui, je crois quand nous avons parcouru ce rapport, et si nous suivons les comptes rendus qui a été fait par l'un de vos collègues, quand il a présenté les résumés de ces rapports, nous constatons que ce rapport, il est réel, il est logique, et il marque plutôt des améliorations, parce qu'il y a des nuances. La situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, ce n'est pas la situation d'il y a une année, il y a deux ans, la situation était pire qu'aujourd'hui. Nous nous sommes dit, si vous lisez ces rapports, il y a même des endroits où le gouvernement congolais a été félicité pour les mesures qui ont été mises en œuvre et qui commencent à donner leurs fruits. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que toutes ces mesures ont contribué à mettre définitivement un terme ou une fin à tout ce qui se passe comme exploitation illégale des ressources minérales et les commerces illicites qui en découlent. C'est vrai qu'il y a encore, comme dans les cas de la paix, des poches de résistance, c'est vrai qu'il y a encore certains sites miniers qui posent problème, et on continue à y travailler au niveau du gouvernement, et je crois que ce rapport a clairement encouragé le gouvernement congolais à continuer avec les trains des mesures qui ont été mises en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et même au niveau international. Il y a beaucoup d'instruments qui sont mis en œuvre, qui, on l'espère, avec leur mise en œuvre progressive, ces instruments vont contribuer à éradiquer ces systèmes. Donc nous devons considérer que mettre fin à cette exploitation illégale et ces commerces illicites, c'est un objectif à atteindre. Mais à ces jours, je crois que nous sommes dans une bonne direction. Et ça, les rapports l'ont clairement reconnu. Je crois peut-être qu'on pourra rentrer en détail quand on va évoquer tous les trains de mesures qui a été mis en œuvre par les gouvernements ainsi, qui a quand même contribué à améliorer la situation. Je crois qu'il y a une année, à l'est, il y avait des avions qui atterrissaient sur des routes. Il y avait les minerais sortaient par toutes sortes de voies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation qui est vécue. Avec les opérations militaires qui ont été réalisées, la plupart des groupes armés ont été anéantis. Mais il y a encore quelques maïmaï, il y a encore quelques groupes rebelles. Ces groupes rebelles, s'ils sont sur terrain, si vous posez quelles sont leurs motivations exactes, qu'est-ce qu'ils veulent, quand on les considère comme groupes armés, ce n'est pas qu'ils ont des revendications d'ordre politique ou d'ordre social. La vraie raison de leur présence, c'est qu'ils préfèrent continuer à exploiter ces ressources minières de manière illégale et en faire un commerce illicite. C'est pourquoi on dit qu'il faudrait ne pas seulement voir les problèmes en termes de mesures, il faudrait continuer avec les deux actions sur les deux fronts, sur les fronts militaires pour éradiquer tous ces groupes armés. Une fois qu'ils seront éradiqués, je pense qu'on devra à ce moment-là déjà tendre vers la fin de cela. Et d'autre part, c'est mettre en place tous ces mécanismes, toutes ces mesures qui ont été prises pour décourager ceux qui font cette exploitation illégale. Vous pouvez exploiter les minerais, mais si vous ne savez pas où les écouler, je crois, ça va décourager la plupart des groupes armés et ils vont arrêter. Donc nous pensons qu'il faut continuer à agir sur les deux fronts.
Alors, vous parlez des avancées, Lems Kamwanya. Pour les auditeurs qui nous suivent, l'émission est également pédagogique et qui n'ont pas toujours toutes les informations. Peut-on affirmer à ce jour que la traçabilité des minerais est garantie?
Oui, ça c'est une question importante. Déjà, quand vous dites que l'émission est pédagogique, il faut qu'on dise aux gens qu'est-ce qu'on appelle traçabilité. Et même dans ces processus, quand nous disons appliquer la traçabilité des minerais, c'est-à-dire que vous devez tracer les minerais depuis le puits d'extraction jusqu'au point d'exportation ou au point de vente. Et ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est arriver à ce que nous avons appelé ici la certification des sites miniers. Vous devez savoir est-ce que ces minerais sont issus des sites miniers qui sont exploités de manière légale ou ces minerais sont issus des sites miniers qui sont exploités par des groupes armés. Ça, c'est un premier facteur important. Et dans ce cadre, on a travaillé avec la coopération allemande BGR la MONUSCO nous a accompagnés pour qu'on arrive à valider les sites miniers, pour dire les produits qui peuvent être exploités et achetés sont des produits qui proviennent de tels sites miniers. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, une fois qu'on a certifié que le site minier est propre, vous devez voir maintenant qui sont les acteurs qui sont là. Vous devez avoir des creuseurs ou des exploitants miniers artisanaux qui sont contrôlés, qui sont recensés. Et dès que les produits quittent les sites miniers, les produits doivent être étiquetés. C'est à ce moment-là qu'intervient maintenant la traçabilité proprement dite avec les étiquettes. Lorsque le produit est étiqueté, on sait savoir d'où provient ce produit minier, il a été extrait par qui et à qui il a été vendu, soit à un comptoir, soit à quelqu'un qui va l'exporter. Et là, la MONUSCO a aidé les gouvernements congolais dans ce cadre en construisant des centres de négoce et la certification qui a été faite, la validation des sites miniers a été faite dans un rayon de 20 km par rapport aux centres de négoce qui ont été construits. Donc il y a des endroits qui sont spécialement dédiés pour vendre ces minerais. Et à ce moment-là, on sait l'origine du minerai, on sait que le minerai sera vendu dans un centre de négoce où existent tous les services de l'État, et on sait que le minerai, quand il quitte les puits, il y a une étiquette, et quand ça arrive au centre de négoce, on va mettre une deuxième étiquette, et quand ça arrive au point d'exportation, on sait contrôler, identifier c'est qui l'a produit, qui l'a acheté et qui va l'exporter. Vous voyez, un tel processus, il n'est pas facile à réaliser parce que si vous allez ne fût-ce qu'à l'Est, vous avez, je crois, 1 000 000 de sites miniers. Vous vous rendez compte, déjà pour arriver à certifier 1 000 sites miniers, ce n'est pas une tâche facile. Et même sans des gosses qui ont été construits, ce n'est pas 400 ou 500 de mes gosses où on peut acheminer tous ces minéraux, sachant que vous avez des problèmes de voies de communication. Ce sont des gens qui marchent peut-être à petits pas. Donc, c'est un problème. On est en train d'y travailler, mais on est au moins dans une bonne voie parce que ces minéraux commencent à suivre tous ces processus normaux de leur production jusqu'au point de leur vente.
Willy Kalingai, vous êtes analyste et directeur général du magazine Géopolis, magazine économique des activités extractives. Quelle est votre analyse à ce niveau?
À ce niveau du débat, je me rappelle que j'étais ici il y a quelques mois, quand on a levé la mesure d'interdiction, et je vous avais dit, si je me rappelle, que la mesure principale n'a pas été prise. La condition, le préalable, c'était la démilitarisation des zones minières, et aujourd'hui nous revenons à cette question. Aujourd'hui, quand nous regardons toutes les mesures qui ont été prises, Monsieur Lemps vient de parler de traçabilité, vient de parler de toutes les mesures qu'on a mises en place. Mais quel est l'effet de toutes ces mesures sur terrain? Sur terrain, aujourd'hui, vous avez les 11 comptoirs qui étaient pré-identifiés. Il ne reste que 2 sur les 11. 9 comptoirs ont fermé. Et vous avez sur les 2 comptoirs qui sont d'ailleurs, l'expert des Nations Unies vient d'en parler un peu, et je crois que dans les rapports on en a parlé, il n'y a que 2 comptoirs des Chinois qui ne respectent pas la traçabilité et qui exportent les minéraux pour la consommation intérieure chinoise. Donc, les mesures qui ont été prises pour pouvoir faciliter une exportation licite, légale et fructueuse pour l'économie dans la sous-région, ces mesures se découvrent aujourd'hui comme étant des mesures qui ont tué l'économie.
Inefficace.
Ça a tué l'économie parce qu'aujourd'hui, allez voir, il n'y a plus d'activité minière. L'activité minière est complètement à l'arrêt. Et d'ailleurs, une deuxième chose qui est comme l'épée de Damoclès sur l'activité à l'Est, c'est la loi Obama. Je me rappelle que les opérateurs économiques de l'Est sont arrivés ici, ont frappé à la porte du gouvernement, ont demandé que le gouvernement n'encourage pas la mise en place de cette loi et que son application allait être, en tout cas, un coup de fusil dans l'économie de l'Est. On ne les a pas écoutés. Aujourd'hui, je vous ai dit, ils ont fermé boutique. Beaucoup sont partis au Katanga, espérant ouvrir au Katanga, mais j'ai appris que les conditions qu'on leur a imposées là-bas, pour ouvrir un comptoir, c'était autour de 5 000 à 5 000 $, ils ont fermé. Et les prix même de la cassiterite aujourd'hui a beaucoup baissé, nous sommes autour de 2,5 $ le kilo, et le travail des creuseurs, ça ne paye plus. Voilà, donc je me dis, s'il y a eu traçabilité, s'il y a un effort qui a été fait, je suis d'accord de reconnaître qu'il y a un effort, mais je suis d'accord aussi que les 2 conditions préalables, la loi Obama et la démilitarisation, restent encore aujourd'hui et les grands handicaps, pas pour les commerces illicites, mais pour le travail normal d'extraction minière. parce que l'activité minière à l'Est n'était pas encore criminelle. Il y a des opérateurs économiques légalement établis qui ont malheureusement été envahis par les réseaux criminels qu'on a dénoncés ici et pour lesquels les réseaux criminels ont mis des mesures en place pour assainir l'environnement. Mais en assainissant l'environnement, on a jeté l'enfant avec l'eau de son bain. C'est-à-dire, en voulant absolument arranger les secteurs, on a cassé l'opérateur économique.
Dieudonné Kotoum de Bounia en province orientale, comment voulez-vous que cette exploitation illicite des minerais de la RDC s'arrête aussi longtemps que ceux qui y sont impliqués sont ceux que la tolérance zéro ne peut jamais toucher? Ainsi, la corruption aussi se porte à merveille en RDC. Si on va dans la même logique, ce qui est totalement étrange est que certains pays voisins de la RDC, si pas tous, combattent plus l'exploitation illégale des minerais congolais que les Congolais eux-mêmes. Willy Kalingai.
Il est vrai que si vous suivez l'actualité, vous avez appris que le Rwanda a quand même arrêté des officiers supérieurs de son armée et a ramené au Congo quelques tonnes de castérite. Et nous avons appris aussi que le CSC a récupéré de l'or de l'Ouganda. Donc les réseaux criminels ont certainement des complicités. Mais que voulez-vous? L'exploitation minière à l'Est est artisanale. Les services du ministère des Mines qui doit s'occuper de la petite mine, c'est les SESCAM. Les SESCAM n'est pas du tout financé, les SESCAM n'est pas du tout aidé. Et je ne sais pas si aujourd'hui dans le programme de Promine, j'espère vraiment que les SESCAM sera renforcé dans ses capacités pour travailler. Vous savez, avant d'atteindre la police minière, il y a d'abord l'administration minière. Parce que le commerce illicite ou pas, mais la faiblesse de l'administration est telle que c'est un petit dépassoir qu'on puisse arrêter des minerais au Rwanda, c'est que ces minerais ont traversé la frontière par tous les différents points sur lesquels on ne parvient pas à contrôler. Notre administration minière est faible, elle n'a pas été suffisamment mise en place de manière efficace, elle devra l'être, j'espère que les efforts qui sont faits par le gouvernement vont être signalés, mais pour le moment, nous sommes encore en deçà du seuil de tolérable parce que ça continue à sortir du pays sans que l'on puisse les respecter.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kolwezi Katanga pour vous, Willy Kalingai.
Professeur Ignace Ndala de Kolwezi Katanga, je pense que beaucoup savent que le code minier existe, mais quelle part le ministère de Mines a-t-il accordé à sa vulgarisation? Je vais dire le contenu de ce code. Il est vrai que l'État fait plus profiter aux expatriés qu'aux nationaux l'exploitation minière. Et c'est pourquoi il y a du désordre dans ce secteur.
Lems Kamonya répondra également à la question, y a-t-il des faiblesses ou y aurait-il des faiblesses dans le code minier?
Évidemment, le code a atteint aujourd'hui sa dixième année d'être en vigueur et que le gouvernement est capable maintenant de le réviser. Il y a des faiblesses, certaines faiblesses, c'est normal, mais je ne pense pas que la faiblesse vienne directement du code. La grande faiblesse, c'est d'abord le respect du code. Le code n'est pas respecté d'abord par le gouvernement lui-même, ensuite par les administrations minières et enfin par les opérateurs économiques. Les textes du code, quand vous le suivez, c'est un code incitatif. Il a fait venir ici des capitaux étrangers importants qui ne peuvent pas y entrer autrement, mais le code lui-même n'est pas d'abord respecté. Quand même il aurait des faiblesses, il n'est pas très respecté.
Frédéric Robats, Willy Kalingai dit que la mise en place de la loi Obama est suicidaire pour l'économie, malgré qu'il y a eu des avancées hein, dans ce sens-là. Quelle est votre analyse?
Oui, la loi qui s'appelle Dodd-Frank a fait un impact important dans le secteur, surtout en RDC, c'est vrai. Les opérateurs économiques, les grandes maisons, les grandes fonderies ont commencé à demander plus de traçabilité et de documentation. Et ils n'ont pas trouvé que le système a été en place et donc ils ont cessé d'acheter. J'espère que ce n'est pas une situation permanente. Il faut construire un système. Tous les pays dans la région sont concernés, sont en train de mettre en place les systèmes de certification pour qu'on puisse savoir plus sur la chaîne d'approvisionnement. Mais il faut dire aussi que comme Monsieur Kalenga a mentionné, il existe les opérateurs économiques légitimes. Ils cherchent à respecter la loi. La loi du gouvernement de la RDC et ses décrets, là, il y a aussi un décret qui dit qu'il y a une obligation de mettre en place, exercer le devoir de diligence. Ce n'est pas seulement les demandes internationales, c'est la loi ici. Donc, tout le monde doit concerter les efforts de mettre en place un système crédible pour satisfaire les demandes tout à fait raisonnables des acheteurs légitimes internationaux. Le consommateur final a le droit de savoir que son iPod ou n'importe quoi, son téléphone mobile, ne contient pas quelque chose qui a profité à un groupe armé à l'est du Congo.
Alors, Frédéric Robax, le rapport que vous avez rédigé, aurait-il des liens, aurait-il influé sur les sanctions prises à l'encontre des certains officiers rwandais?
Vous parlez de l'arrestation.
Effectivement, oui.
Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les pourquoi de ces arrestations. C'est vrai que la première annonce a mentionné leur implication dans les affaires en RDC. On peut supposer que c'est bien possible que ça, ou même fort probable que ça peut impliquer le trafic des minerais. Mais ce n'est pas confirmé par les autorités rwandaises. Il y a aussi les autres théories. Donc c'est difficile pour moi à spéculer plus. Sauf, c'est chaque action pour assurer l'état de droit est bienvenue. On attend plus de précisions sur ce cas. Est-ce qu'il y aura des procès ou est-ce que c'est simplement une arrestation à la maison qui dure je ne sais pas combien de temps? En RDC aussi, il y a des crimes à enquêter et à mettre devant les cours.
Alors, juste un extrait du rapport. Outre la vente d'or véritable, les réseaux criminels montent également des arnaques pour vendre de l'or factice à des clients allant des moniteurs d'auto-école aux manias du pétrole. Il y a quand même diversification des acteurs dans ce domaine.
Oui, c'est un problème parce que déjà les hauts prix de l'or attirent beaucoup de chercheurs d'un bon profit. Donc, bien sûr, chacun qui pense que s'il va jusqu'au Congo, il peut arriver à avoir un bon prix, peut-être il va demander moins par rapport à l'origine de cet or et l'implication de c'est qui est impliqué dans l'affaire. Et malheureusement, il y a pas mal des histoires malheureuses qui commencent soit à Nairobi, soit à Kampala, parfois impliquant des réseaux ici au Congo. Le cas le plus flagrant étant là où on avait vu l'avion privé saisi par le gouvernement à Goma et quelques hommes d'affaires internationaux ont été finalement libérés, mais après ayant payé une amende de 3 millions de dollars, ils ont perdu beaucoup de l'argent et nous estimons que le général Ntaganda a gagné un peu d'argent dans cette affaire. C'est pas un cas typique, mais c'est un cas illustratif de l'échelle de ce problème.
Lems Kamwanya, Willy Kalengai est revenu sur les préalables en parlant de la démilitarisation des zones minières ainsi que de la loi Obama qui sont restées des questions sans réponse ou des questions avec mauvaise réponse.
Non, moi je ne peux pas dire que ce sont des questions sans réponse. C'est-à-dire, les opérations militaires, elles ont continué. Donc elles ont commencé, elles continuent jusqu'à ces jours, je crois, vous. Ici, nous suivons les points hebdomadaires de la MONUSCO chaque mercredi. Et on sait que le gouvernement congolais, au niveau de l'Est, il y a des zones considérées encore comme des zones qui ne sont pas qui ne sont pas encore assainies parce qu'il y a des opérations militaires qui sont en cours. Une guerre, vous connaissez quand vous la commencez, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous la terminez. Cette démilitarisation, elle doit se poursuivre. On ne doit pas dire que c'était un préalable, on ne peut pas dire que ça devrait prendre un ou deux mois. On ne peut pas fixer les temps par rapport aux opérations militaires. Je ne suis pas de l'armée, mais je sais que c'est généralement ça. Et ça se passe où? Ça se passe au Kivu, où vous avez des forêts, où vous avez des montagnes. Et ce n'est pas une guerre qui est aussi facile. Mais ce que je note, c'est que les efforts ont été faits. Et ça, les rapports l'ont mentionné, bien qu'on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Les efforts ont été faits. Plusieurs sites miniers, jadis occupés par des groupes armés, ont été libérés. Et à ces jours, ce n'est pas ces problèmes-là qui bloqueraient. Maintenant, c'est plus le problème de répondre à toutes ces exigences internationales.
Les mais on accuserait aussi l'armée régulière, l'EMSCAMOIGNE, de se livrer
à ce commerce. C'est-à-dire, vous savez, c'est un système qui a été gangréné par la corruption, la contrebande, tout le monde y trouvait profit. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut trouver ça. Et dans tous les pays du monde, on va vous dire, quand vous avez des réseaux criminels, des réseaux pirates, c'est un phénomène qui est quasi omniprésent et on doit continuer à lutter contre ça. Si vous avez lu les rapports, quand vous avez évoqué les cas de l'or qui passe par des moniteurs, c'est-à-dire les gens, quand ils sentent que vous contrôlez par cette voie, ils trouvent d'autres subterfuges pour arriver à contourner la loi. Et ça doit être un travail qui est permanent. On ne peut pas dire aujourd'hui, je vais vous donner un exemple assez simple. Je prends les sites miniers de Bissier. Sur ces sites miniers, il y avait plein de militaires, y compris nos militaires qui étaient dedans. On a fait des opérations militaires, on a chassé les armées qui étaient dedans. Quand les armées sont parties, il fallait commencer par la traçabilité. Et c'est la MONUSCO qui avait exigé, qui avait fait pression sur les gouvernements congolais pour dire, écoutez, on n'aime pas avoir la présence des groupes armés dans les sites miniers. Le gouvernement a dit, écoutez, on vient de libérer ces sites miniers, il faudrait que les opérations commencent. Si ça ne commence pas et que nos militaires se retirent, il y a danger encore que les armées viennent s'installer. La MONUSCO a fait pression et les militaires congolais qui étaient là ont quitté les sites. Et vous savez ce qui est arrivé après? C'est un groupe armé contrôlé par un certain Tcheka qui est revenu reprendre le contrôle de ça. Et ça, la faute à qui? À la MONUSCO ou au gouvernement congolais? C'est pourquoi je vous dis que c'est un problème qui est un peu permanent et il faut continuer à le faire. Si je prends le cas de la loi Obama, je suis d'accord. La loi Obama, il a évoqué dans le sens
suicidaire pour l'économie.
Suicidaire, je veux dire.
D'après Willy Kalingai.
C'est peut-être une loi qui est suicidaire si on voit les effets à très court terme. Immédiatement, on s'est dit, les gens ne savent plus produire, les gens ne savent plus vendre. Mais dès l'instant que nous nous mettons pour répondre aux devoirs de diligence, remplir toutes ces conditions exigées, et nous allons penser que cette loi, ça va être vraiment un des éléments qui peut nous permettre de faire quoi? De régler ces problèmes. Parce que vous pouvez exploiter de manière illégale, mais si vous ne savez pas où vendre, je crois que ça va décourager beaucoup et ça décourage beaucoup.
Willy Kalinga a également insisté sur la faiblesse du code minier qui n'est pas respecté, en commençant par le gouvernement, l'administration minière et ainsi de suite.
Ce n'est pas la faiblesse du code minier. Il se pose un problème de son application sur terrain. Il se pose un problème d'assurer l'effectivité des lois et de faire des contrôles. Je crois au moment où le chef de l'État avait pris la décision de suspendre, dans les communiqués qui avaient été publiés par le ministère des Mines, il avait été clairement fait allusion au fait qu'il y a des autorités administratives et policières congolaises qui sont impliquées dans ces commerces illicites. Ce n'est pas un secret pour personne. Donc ça, il faut continuer à assainir, il faut continuer à enquêter et sanctionner toutes ces personnes-là qui, au lieu de faire respecter la loi, elles-mêmes sont aussi impliquées dans ces commerces illicites. Vraiment, c'est un problème de faire respecter la loi et il a évoqué le problème d'avoir une administration qui est efficace, qui sait faire son contrôle avec tous les moyens et sanctionner tout ce qui sont en train de se mêler dans ces commerces. Et aussi, faire pression sur les autorités provinciales et locales, administratives, qui sont impliquées dans ces commerces-là, pour qu'on sépare les fonctions d'exploitants et les fonctions d'agents de l'État.
Abordons la deuxième partie de cette émission. Que faire pour mettre fin à l'exploitation illégale des minerais en RDC? Willy Kalinga, je rappelle que vous êtes analyste et directeur général du magazine Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Prenons cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu, où cet auditeur a une proposition à cet effet.
Prosper Katungo, j'habite Goma. Je pense, à mon avis, qu'il serait illusoire de passer mettre fin à l'exploitation illicite de nos minerais tant que le gouvernement n'aura pas accordé une priorité au rétablissement de la paix à l'est du pays, tant qu'il n'aura pas œuvré à la mise en place d'une politique favorisant la création d'emplois, aussi longtemps que nos militaires et policiers n'auront pas perçu un salaire décent et aussi longtemps que nos frontières avec les pays voisins resteront poreuses.
Réaction Willy Kalingai.
Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Il a touché du doigt le vrai problème, mais c'est vrai que par où commencer? Et je voyais déjà deux choses très rapides. C'est que un lobbying important par rapport au gouvernement américain, parce que la plupart des acheteurs sont américains. Comme je cite par exemple Apple, j'ai lu sur le site d'Apple, ils sont prêts à acheter le coltan congolais qui est de très bonne qualité. Mais leur propre gouvernement leur impose des contrôles qui les empêchent d'acheter. Donc nous devons, nous, en tant que pays, parce que quand il n'y a pas de moyens, vous ne pouvez rien changer. Tout doit venir de l'argent. D'où viendra l'argent si les opérations minières sont suspendues, si elles ne sont plus rentables? Il y a donc une première action importante diplomatique qu'il faille faire, c'est envers le gouvernement américain. En même temps, l'impliquer dans le travail substantiel qui est celui de la démilitarisation des zones minières et de la consolidation de l'administration minière. Le même gouvernement américain qui est, en définitive, d'une certaine manière, parmi les grands acheteurs, c'est comme les Américains, ils peuvent donc aider le gouvernement congolais et surtout aider les opérateurs économiques parce que tout le monde n'est pas criminel. Tout le monde n'est pas, en effet, par le trafic illicite. Il y a des gens qui ont travaillé dans cette partie-là et qui ont ramené, je me rappelle, quand nous étions en train d'en parler ici, nous disons que la province du Nord Kivu percevait à peu près pour taxes et tout ça $1 million par mois à cause de, ou grâce à ce travail-là de taxes, etc., dans la sous-région. Maintenant qu'elle ne perçoit même rien parce que les comptoirs ont fermé, il faut donc sécuriser, séparer l'économique du militaire. Il faut séparer le gouvernement du militaire, il faut séparer le politique du militaire. Parce que les militaires, si on le laisse sur des sites miniers et qu'ils travaillent comme créseurs, parce que c'est le cas aujourd'hui des forces armées, surtout les groupes armés, des groupes, moi je ne les appelle même pas des groupes armés, c'est quand même des groupes criminels, c'est des bandits qui sont armés. Parce qu'aujourd'hui, comme la mine elle-même, elle ne donne plus parce que les prix ont baissé, la plupart des créseurs ont repris la Kalachnikov pour se nourrir. Et donc, nous sommes dans un cercle vicieux.
Voilà. Alors, à ce moment-là, Willy Kalingai, n'y a-t-il pas des solutions alternatives telles que l'agriculture et d'autres?
La solution par rapport à l'exploitation minière à l'est du pays, il faut l'industrialisation. Dans les deux provinces, nord et sud Kivu, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas une industrie installée pour l'exploitation il n'y a pas. Toute l'exploitation minière, que ce soit pour le coltan, que ce soit pour les autres minéraux dont on a cité ici, c'est de l'exploitation artisanale. Alors vous voyez par exemple pour l'or, nous sommes en train d'aller progressivement vers un progrès avec l'installation d'une usine dans les Sud-Kivu, vous allez voir que ça va beaucoup diminuer parce que de plus en plus des petits producteurs vont aller vers les grands producteurs et vendre directement. Mais tant qu'il n'y a pas d'industrialisation, tant qu'on n'aide pas des entreprises, même des entreprises multinationales, à s'installer dans la sous-région et à mettre en place des mécanismes industriels, il sera difficile. Imaginez les sites qu'on a cités tout à l'heure, les BCA. S'il y avait une industrie internationale là-bas, s'il y avait une véritable usine ou une véritable mine avec des ingénieurs, des tracteurs, etc., tout ce qu'il faut pour exploiter, eh bien on allait sécuriser cet endroit-là.
Joseph de Walikale et Honor Kivu, pour lutter contre ce trafic illicite des minerais, il faut que l'armée soit déployée dans des carrières minières, mais aussi rendre réelle la question des centres de négoce à Willy Kalingai.
On en parle beaucoup, des centres de négoce. J'ai pas voulu beaucoup insister pour laisser un peu quelques joueurs au cœur à l'EMS Kamoigna, parce que c'est un travail qui a été fait. Mais je vous ai dit, c'est une procédure qui aboutit au comptoir. C'est vrai, on met en place un endroit où les minéraux arrivent, mais tout ça, ce n'est pas encore... Le plus important, c'est d'arriver au comptoir, où on peut vendre et avoir de l'argent. Mais les comptoirs ont fermé. Et il n'y a personne pour acheter. À quoi sert le centre de négoce?
Frédéric Robatz, je rappelle que vous êtes coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies. Finalement, l'exploitation illicite des minerais au Congo ressemble à une vaste toile d'araignée. Arrivera-t-on finalement un jour à la démanteler?
J'espère que oui. D'abord, pour les aspects économiques, c'est une économie dynamique, flexible. Il y aura des changements, des réactions rapides. Là où il y a une ouverture, quelqu'un va l'exploiter tout de suite. Je suis d'accord avec votre auditeur à Goma qu'il y a aussi les aspects fondamentaux qu'il faut pas oublier. Ce n'est pas un problème purement technique. Il y a des réformes de base. Il faut établir un état de droit, que la loi soit respectée, que les soldats, les militaires qui se mêlent dans le trafic illicite soient sanctionnés, par exemple. L'établissement de stabilité et paix, c'est ce que tout le monde veut. La démilitarisation des mines, la réforme de la secteur sécuritaire. Et là, il a fait référence au salaire, mais ce n'est pas seulement les salaires, c'est beaucoup. Mais finalement, le travail de nos amis à Promine, par exemple, il faut aussi un financement pour ce genre de travail, pour financer les premières mesures de traçabilité et de certification. Ce n'est pas, on espère que finalement c'est l'économie qui paye pour ça. C'est l'industrie, c'est le secteur. Mais pour commencer, il faut les premières pièces. Dernièrement, il y a cette mettre en œuvre de l'exercice de devoir de diligence, lequel je peux expliquer si le temps nous permet.
Malheureusement, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Lems Kamwanya, vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines. Willy Kalengai a insisté sur une action diplomatique. Permettrait-elle de mettre fin à cette exploitation illicite des minerais?
Oui, non, je crois. Lui, il a parlé plus de l'action diplomatique vis-à-vis des États-Unis pour
ouais.
Que la loi Dodd-Frank, peut-être qu'on atténue ou qu'on reporte son application.
Est-ce une solution durable?
Déjà, la solution durable, ce n'est pas, on ne doit pas voir le bout du tunnel. Le problème, c'est que, est-ce que nous voulons maîtriser les minerais qui sortent chez nous, qui ne soient pas exploités de manière illégale par des groupes armés, essuyer ceux-là qui font normalement leur commerce, et jeter un discrédit sur l'ensemble.
Je crois que
la solution, on va y arriver parce que il y a tout un ensemble d'initiatives internationales mises sur pied pour régler ces problèmes. Je vous ai parlé du fait que la MONUSCO intervient là-dedans avec la construction de centre de négoce. Je vous ai parlé du BGR qui fait la validation des sites miniers. Il y a l'ITRI qui fait la traçabilité. Nous avons au niveau régional, au niveau de la CERGL, il y a la certification régionale. Nous avons les devoirs de diligence raisonnables avec l'OCDE et il y a le ministère même qui est impliqué avec les mesures de traçabilité. Si nous mettons toutes ces mesures-là en application, je crois qu'il y aura moyen de parvenir à trouver une solution à ces problèmes.
Merci, Lems Kamwanya. Willy Kalenga, il faut déjà conclure. Qu'est-ce qu'il faudrait que la population ou les auditeurs qui sont en train de nous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir finalement de l'exploitation minière en RDC?
Elle pourrait être une autre chance pour sortir notre pays de la pauvreté et pourquoi pas arriver au statut d'un pays émergent, mais ça devra être basé sur une culture économique réelle et sur un état de droit.
Frédéric Robatz, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement?
Bon, nous avons découvert et cité dans notre rapport plusieurs cas de problèmes dans les sites minières, des endroits comme Numbi, comme Bissier, comme Obaye, comme Louéché, pour citer les cas de Nord Kivu seulement. C'est là où on veut voir les changements. Voir ce changement, il y a un changement de comportement requis. Je crois qu'il faut reconnaître les efforts des autorités dans ce cadre et reconnaître qu'il y a beaucoup plus à faire.
Lems Kamwanya, un mot pour terminer.
Tous les efforts sont permis.
Voilà, merci Willy Kalenga. Juste une question, la révision du code minier, est-ce une nécessité?
Oui, il y a une nécessité absolument, parce qu'il y a des dispositions dans les codes qui ne sont plus valables aujourd'hui. Il y a des réalités que le code n'a pas pris en compte.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, José Junior Owawa, notre stagiaire, Kevin Kouté, Samuel Kachak, qui ont travaillé sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Sylvain Matundu et Bob Landou, qui étaient à la technique. Présentation et coordination, Alain Hirung Mouchinj. Au revoir.